J'ai une question à poser à Monsieur Noël. Donc, en ce qui concerne le traitement des extraterrestres, donc, j'ai remarqué une légère différence entre Jules Verne et André Laurie. Donc, Jules Verne est très prudent là-dessus, alors que dans Les Exilés de la Terre d'André Laurie, donc, il semble suggérer l'existence des Sélénites. Donc, est-ce que vous pouvez dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors, c'est très difficile de répondre à cette question, parce qu'effectivement, il est extrêmement prudent sur, sur cette question-là. Alors, sachant que là encore, Les Exilés de la Terre, peut-être y a-t-il plus de choses que ce qui a été publié. Hein, donc, il faut aussi se reporter toujours à cette question de la genèse de ce texte. Donc, ça, c'est un texte, d'abord, qui est très important, enfin, en termes de volume. Hein, quand on voit aussi le côté disparate ou hétérogène de la production des romans d'aventure et d'imagination scientifique de André Laurie. Donc il y a des choses qui ont la longueur d'une grande nouvelle en quelque sorte, comme le roman sur la planète Mars, et puis quelque chose qui nécessite deux volumes quand c'est publié, Les Exilés de la Terre. Et encore, ça a été considérablement réduit. D'ailleurs, à ce sujet, Pierre-Jules Hetzel avait beaucoup aimé ce roman d'André Laurie. Mais il le trouvait foisonnant, etc. Il y a les références justement à tous les auteurs qu'on retrouve dans cette liste que j'évoquais, Swift, Poe, etc. Mais donc il a été réduit. Alors quand un texte a été réduit, effectivement, est-ce qu'il y avait plus de choses par rapport à la question que vous posez sur la présence de Sélénites? J'en sais rien du tout. Mais on voit que, puisque vous posez la question de la différence Verne-Laurie, que Laurie, finalement, rien ne l'arrête, quoi. Et que, précisément, ce roman Les Exilés de la Terre, il va sur tous les champs au gré de son écriture, hein, que ce soit le champ du merveilleux, que ce soit sur le champ scientifique, hein, puis on connaît en plus la parenté qu'il y a entre ce texte et puis Hector Servadac, avec un morceau de terre qui se détache, hein, et puis au bout d'un moment on se rend compte que finalement on voyage. Donc je ne peux pas répondre plus que ça à cette question précise sur les exilés de la Terre. Mais en tout cas, même si on pouvait y répondre, ça n'aurait, je dirais, pas grande valeur, puisque, justement, Laurie n'a aucune limite dans son imagination. Quand il est à parler d'Atlantis, Atlantis, c'est pareil. Donc, Atlantis, on peut faire cette même comparaison, puisque l'Atlantide, eh bien, Jules Verne l'a fait côtoyer, notamment dans Un milieu sous les mers. Ces approches-là, ce sont des choses qui sont prises en charge par des auteurs, avec finalement dans une cohérence de leur écriture. Et comme finalement chez Laurie, il n'y a pas beaucoup de limites dans sa cohérence d'écriture, eh bien, même si on avait la réponse, ça n'aurait guère de valeur, je veux dire.
On sait que Hetzel est quand même quelqu'un qui a ce qu'on appellerait aujourd'hui une véritable idée de ce que c'est que le marketing dans le monde de l'édition. Et est-ce que s'assurer la collaboration de Laurie, qui va écrire donc les vies de collège, donc qui participe au débat sur l'instruction publique à la fin du 19e siècle, après avoir construit l'idée des voyages avec Verne, c'est pas aussi une façon de s'assurer une place de choix face à l'instruction publique et afin de vendre justement ses livres à l'État en fait et avoir un débouché en termes de gains pour sa maison d'édition.
Oui, alors ça c'est une question importante, parce que en plus quels étaient les deux grands canaux, deux grandes périodes. Il y avait des saisonnalités dans la diffusion des œuvres de Hetzel, donc il y avait évidemment les étrennes, et puis il y avait les distributions de prix. Et donc vous savez bien que dans les catalogues, même donc les ouvrages qui sont couronnés, il y a des ouvrages qui peuvent effectivement faire l'objet de distributions de prix. Et on voit que pour ce qui concerne Laurie, là, donc du coup il y a une connexion directe. Donc chez Jules Verne, rien n'empêche de distribuer des Jules Verne aux distributions de prix. Mais on voit que pour Laurie, il y a une connexion directe entre le sujet dont il est question et puis effectivement l'occasion de diffuser. Donc c'est-à-dire que quand même, effectivement, il y a une question marketing autour de ça. En même temps, ces vies de collège, même si c'est une série qui est très bien identifiée, donc une série bien identifiée, bien repérée d'un point de vue marketing, c'est toujours intéressant. Son côté encyclopédique peut évidemment contribuer à la chose, mais quand il y a quelque chose qui s'étale sur une certaine durée, qui a un caractère encyclopédique, il peut y avoir un risque d'essoufflement aussi, marketing. Et c'est quand même ce qui s'est produit pour cette série, parce que autant La vie de collège en Angleterre a très bien marché, autant à la fin, ça s'est essoufflé. Bon, et puis, on traite de l'éducation, des systèmes d'éducation dans différents pays. Parfois, ça apporte réellement quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qu'on ne connaît pas bien. Le système anglais permet aussi de connecter les choses avec le renouveau du sport, enfin de l'éducation physique. Mais parfois, aborder la question de l'éducation, c'est aussi risqué, quoi. Même, enfin, en termes de marketing. C'est-à-dire qu'un éditeur, il a toujours, il prend des risques. Voilà. On parle de choses, on parle de politique, on parle, etc. Donc il y a toujours cette part de risque. Et que ça peut se voir, cette notion de risque, sur des champs finalement assez inattendus. Donc par exemple, quand Laurie consacre un volume sur l'Allemagne, à l'Allemagne, donc avec l'écolier hanovrien, et bien là, voilà, on est sur un terrain un peu glissant. Donc ben, quand effectivement il s'agit de ne pas froisser la diplomatie russe avec Michel Strogoff, c'est un petit peu pareil. Donc il y a toujours cette espèce de prudence. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la volonté d'aller sur un marché, mais jusqu'où aller pour que ce soit acceptable. Et donc le fait d'avoir aussi cette préoccupation d'adaptation, donc de répondre à ce qu'attend un public, ça va dans le même sens. C'est une démarche pleinement marketing, évidemment. C'est-à-dire qu'on sait ce qui marche, donc on va là-dedans, vers ça. D'un autre côté, on veut apporter des idées progressistes, qui est le cas d'Hetzel, évidemment, mais jusqu'où ? Voilà. Avec toujours en plus cette peur, hein, parce que bon, c'est quand même très, très particulier, cette histoire des textes qui ont été réécrits par Jules Verne. Bon, là, aujourd'hui, on parle de Pierre-Jules Hetzel, très peu de Louis-Jules Hetzel, mais s'il y a des travaux qui sont faits, un mémoire qui a accompagné, ce sera intéressant d'y revenir. Mais on voit bien que, autant il y avait une relation extrêmement riche entre Grousset et Pierre-Jules Hetzel, autant c'est compliqué avec Louis-Jules Hetzel. Bon, Daril parle évidemment de la question de ses traités, comme on disait, enfin, donc de ses contrats avec la maison d'édition, donc 2 ans avant sa mort, mais sans que ce soit résolu. Ça veut dire que le sujet, une fois qu'il y a la transmission de la maison Hetzel à Louis, eh bien, ça revient, cette question, parce qu'elle n'a pas été réglée. Bon, elle n'a pas été réglée parce qu'aussi, ben, y avait cette espèce de relation affective, etc. Et donc, ben, comme vous savez, Laurie et Louis-Jules Hetzel, en fait, menacent d'aller en procès parce que, en fait, Grousset veut une révision de ses traités parce qu'il s'estime quelque part spolié par les textes qu'il a cédés à Jules Verne, enfin à l'éditeur pour qu'ils soient réécrits par Jules Verne. Et puis donc ça va jusqu'à la menace, je vais tout révéler, je vais construire ma carrière d'écrivain ailleurs et je vais révéler l'affiliation, comme il dit, l'affiliation d'un nouveau nom avec celui d'André Laurie et la parenté avec celui de Jules Verne. Donc ça c'est évidemment très grave parce que serait-il alors là encore, hein, bon, est-ce qu'on va refaire l'histoire? Mais ça peut être intéressant d'imaginer qu'on est en train de refaire l'histoire. Parce que qu'est-ce qui serait advenu si effectivement Daril avait mis sa menace à exécution, donc s'il avait révélé le poteau rose, ça aurait été très lourd de conséquences, parce que justement on aurait découvert que des romans qui touchent à l'éducation, bah, en fait, sont écrits par un ancien communard, et on sait à quel point c'était devenu tabou, la question des anciens communards. Voilà. Donc là, peut-être d'ailleurs, il y a-t-il une conjecture dont pourrait se saisir aujourd'hui romancier et scénariste, un peu à la manière de l'univers de la bande dessinée que vous connaissez peut-être.